Vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel 90.0, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Aujourd'hui, après avoir consacré des émissions à de très grands pianistes, Horowitz, Brendel, Xifra, Nicolas Angelich, nous abordons une émission consacrée à sans doute le plus connu, c'est Arthur Rubinstein. Ce pianiste légendaire, né en 1887 à Lodz, en Pologne, mort à 95 ans en 1982, c'est un personnage truculent, aussi bien que doué, qui, étant issu de parents qui ne sont pas du tout musiciens, manifeste des dons prodigieux. C'est un enfant prodige. C'est un enfant prodige qui, à 4 ans, reproduit ce que ses sœurs s'escriment à essayer de jouer au piano. Il reproduit ça d'oreille. On découvre qu'il a des dons évidents. Et il est lancé dans cette aventure inouïe de sa vie et de sa carrière. Il va être pris en charge, c'est son mentor, par le grand violoniste de l'époque, Joseph Joachim, grand ami de Brahms, qui va l'accueillir avec énormément de gentillesse et le suivre, bien sûr, dans ses débuts. Et Joachim va l'orienter vers un grand professeur de l'époque, le professeur Barthes, quelques professeurs extrêmement austères, dont Rubinstein, avec son sens de l'humour inouï, brossera des portraits assez truculents. Il dira « Lorsqu'il n'est pas content de moi, il est enfant. Lorsqu'il n'est pas content de moi, il se pince la lèvre inférieure. » Et sa barbe se dresse à l'horizontale. Et là, je comprends qu'il n'est pas content de ce que j'ai fait et que voilà, il y aura des suites. Personnalité fantastique, amour de la vie. C'est un jeune homme qui, vers 20 ans, est dégoûté de la ville, est à Paris, il est un peu tout seul, il n'a pas un sou en poche et quand il a un sou, il en dépense deux. Il fait la fête et il veut se suicider. Son suicide se échoue, il va, le cordon de son peignoir va céder, il voudra se pendre et il découvrira qu'en fait la vie est merveilleuse et toute sa vie jusqu'à ses derniers instants, eh bien il sera joyeux, il sera amical, il vivra de bonne chair bien sûr, les beaux cigares, le homard, le champagne, il sera invité dans le monde entier, partout. Il fera la fête, il passera en allant à Aix-les-Bains en vacances, il passera à Nantua et dans ses mémoires, dont je vous recommande la lecture, 3 tomes tout de même, eh bien, il dit qu'il s'arrête à Nantua et qu'il se délecte de notre célèbre sauce Nantua, la sauce dite Nelot. Et il va beaucoup jouer dans sa jeunesse, Brahms, avec des succès assez mitigés. Brahms, à l'époque de ses débuts, ne passe pas vraiment, mais il joue beaucoup Brahms parce qu'il aime beaucoup Brahms, contrairement au professeur Barthes, qui finalement n'aime pas Brahms. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et je vais annoncer le premier morceau de notre écoute. Brahms, l'Intermezzo, opus 17, numéro 2. Il enregistrera aussi, bien sûr, les grands concertos pour piano qui seront ses grands succès.
Thank you. La vie d'Arthur Rubinstein est un mélange d'amour de la vie, de passion, de sens de la communication avec les autres, d'amitié, de connaissance, d'amour de la vie. Ainsi, en 1915, la guerre fait rage en Europe. Le Polonais qu'il est n'a pas de sympathie pour les Allemands. Il va en Espagne, où d'ailleurs, début des contrastes, il fait un grand succès avec le concerto de Brahms, concerto allemand s'il en est. Il fait, au fruit de ce succès, une grande tournée et il quadrille l'Espagne, où il a un énorme succès. De là, il va en 1917 faire la connaissance de l'Amérique latine. Il a, petite histoire, mais une lettre de recommandation d'une danseuse. Sa vie est toute faite de relations et de chances. Et il présente cette lettre de recommandation au patron du journal La Nation, journal important en Espagne. Or, le patron de ce journal est amoureux de la dite danseuse. Donc, le lendemain matin, il a un article magnifique en première page du journal, ce qui va donner lieu à un concert avec un succès éblouissant. Succès éblouissant qui est d'abord dû à son talent, mais n'oublions pas que son sens de la relation, son amour de la vie, son amour des autres, va faire que partout où il va faire des connaissances enthousiastes, il va se lier d'amitié, et tout cela va lui faire une vie extraordinaire. Ainsi, en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro, il va ni plus ni moins que faire la connaissance de Paul Claudel et de Darius Milhaud. Et il va rencontrer un compositeur peu apprécié à l'époque, car il n'est pas le fruit du classicisme, Villa-Lobos. Mais Rubinstein, qui est à la fois un amoureux de la musique classique, ressent la musique de Villa-Lobos et il va promouvoir Villa-Lobos contre l'avis de tout le monde, contre l'avis de la presse, contre l'avis des critiques, et il va finalement l'imposer. Donc on voit que de toute façon, Rubinstein a à la fois un amour de la vie, un sens du romantisme, un sens de l'amitié, mais aussi une détermination farouche. Nous allons, pour illustrer cette vie espagnol et d'Amérique du Sud, écoutez la danse du feu de De Falla, danse du feu dans laquelle il excellait et où il avoue lui-même, si vous le regardez sur YouTube, qu'il levait les mains très haut puisque c'est une suite d'accords, mais tout aussi pour faire du théâtre plus que pour faire de la musique. Mais il s'est créé ainsi une réputation. La danse du feu de Manuel De Falla. Thank you.
Bruno vient de retracer la carrière énorme que fait Rubinstein en Espagne et en Amérique latine. Non moins énorme est sa carrière qu'il va accomplir aux USA. Avant la guerre, il découvre les USA et il commence à faire ses premières armes de concertiste. Pendant la guerre, où il va bien sûr s'y réfugier, les États-Unis vont le naturaliser en 1946 à la Libération. Et après la guerre, il fera une très très grande carrière, jouera avec les plus grands chefs du monde entier, où il y résidera d'ailleurs plusieurs années. C'est une carrière qui va l'amener à rencontrer un autre grand pianiste, Vladimir Horowitz. J'en dis un mot, Horowitz va être découvert par Rubinstein aux États-Unis où il fait fureur. Rubinstein comprend qu'Horowitz est un pianiste parfait, qu'il est, dira-t-il, meilleur pianiste que moi, mais je suis meilleur musicien que lui. Horowitz, néanmoins, l'incitera vigoureusement à retravailler toute la technique de son piano à 45-50 ans, parce que Rubinstein a toujours dit qu'il était en fait tellement doué qu'il était tout autant doué pour la paresse et la fête et la bonne chair. Donc il va retravailler sa technique pour éviter d'oublier, entre guillemets, quelques notes dont il dit que parfois c'est dans des morceaux un peu compliqués, ben voilà, ça lui demanderait trop de travail. Voilà. Nous avons écouté d'ailleurs tout à l'heure un intermezzo de Brahms tiré d'un concert que donne Rubinstein aux Pays-Bas le 20 avril 1963. C'est un enregistrement sur le vif, comme on dit, ou en live, qui est fait, et c'est rare parce qu'en général, il n'aimait pas qu'on l'enregistre pendant ses concerts, mais il a laissé plus de 200 disques. Il joue troisième mouvement de la sonate 23 de Beethoven, qu'il a beaucoup joué, la Passionata, et c'est un torrent de musique enflammé. Thank you.
La renommée musicale de Rubinstein est tout à fait liée à Chopin. Sa discographie est remplie de Chopin et son image lui est associée. Il disait volontiers d'ailleurs qu'il était passionné par Chopin, rappelons qu'ils étaient polonais d'origine tous les deux. L'histoire dira que dans son enfance, on jouait Chopin parce que la Pologne étant sous domination russe, on ne pouvait pas exprimer ses sentiments polonais, c'était une manière que de s'afficher polonais, que de jouer Chopin. Il fut surtout très important dans l'histoire de l'interprétation pianistique au cours de la première moitié et après du XXe siècle, parce que Chopin était joué par un très grand autre pianiste, Paderewski, d'une manière que Rubinstein contestait. Paderewski était, nous pourrions presque dire aujourd'hui, alors qu'il était un grand pianiste, mais un peu sirupeux, très douceâtre. Et Rubinstein, par contre, a joué Chopin d'une manière très énergique. Il était en rupture. Et tout au long de sa vie, il a enregistré Chopin. On peut presque dire qu'il l'a enregistré deux fois, sinon trois. Notamment, il a en fait deux versions des Nocturnes, il a fait deux versions des Scherzi. Donc vraiment, Chopin était une partie intégrante de sa vie et a bâti sa renommée. Et comptons-le dans une interprétation de la première ballade de Chopin.
bien de retracer la carrière énorme que fait Rubinstein en Espagne et en Amérique latine, non moins énorme est sa carrière qu'il va accomplir aux USA. Avant la guerre, il découvre les USA et il commence à faire ses premières armes de concertiste. Pendant la guerre, où il va bien sûr s'y réfugier, les États-Unis vont le naturaliser en 1946 à la Libération. Et après la guerre, il fera une très très grande carrière, jouera avec les plus grands chefs du monde entier, où il y résidera d'ailleurs plusieurs années. C'est une carrière qui va l'amener à rencontrer un autre grand pianiste, Vladimir Horowitz. J'en dis un mot, Horowitz va être découvert par Rubinstein aux États-Unis où il fait fureur. Rubinstein comprend qu'Horowitz est un pianiste parfait, qu'il est, dira-t-il, meilleur pianiste que moi, mais je suis meilleur musicien que lui. Horowitz, néanmoins, l'incitera vigoureusement à retravailler toute la technique de son piano à 45-50 ans, parce que Rubinstein a toujours dit qu'il était en fait tellement doué qu'il était tout autant doué pour la paresse et la fête et la bonne chère. Donc il va retravailler sa technique pour éviter d'oublier, entre guillemets, quelques notes dont il dit que parfois c'est dans des morceaux un peu compliqués, ben voilà, ça lui demanderait trop de travail. Voilà. Nous avons écouté d'ailleurs tout à l'heure un intermezzo de Brahms tiré d'un concert que donne Rubinstein aux Pays-Bas le 20 avril 1963. C'est un enregistrement sur le vif, comme on dit, ou en live, qui est fait, et c'est rare parce qu'en général, il n'aimait pas qu'on l'enregistre pendant ses concerts, mais il a laissé plus de 200 disques. Il joue troisième mouvement de la sonate 23 de Beethoven, qu'il a beaucoup joué, la Passionata, et c'est un torrent de musique enflammé.
clair que Arthur Rubinstein a dû son immense succès et sa longévité à son sens de la vie. Il avait à l'évidence un don invraisemblable pour la musique et le piano, mais aussi un don pour la vie, pour la joie de vivre, pour la communication, pour le sens de l'amitié. Il faut regarder son émission Le Grand Échiquier avec Jacques Chancel. Il faut regarder le film de Reichenbach, L'amour de la vie, pour comprendre que cet homme était joyeux, heureux de vivre et se levait tous les matins en aspirant à vivre la journée qu'il allait vivre. Une petite pique pour faire part de son humour. À la fin de sa vie, il devint aveugle et il déclara qu'il ne pouvait plus jouer de piano car il ne voyait plus ni les basses ni les aigus. Pour conclure, et d'ailleurs à la fin, je ne voyais plus le piano, ce qui ne l'empêchait ni de sourire, ni de parler avec humour de cette fin de vie qu'il a vécue en déclarant que finalement ce qu'il avait aimé le plus, c'était Mozart. Écoutons-le néanmoins dans du Liszt, une rhapsodie qu'il a beaucoup aimé jouer.
Thank you.
m'est aisé de présenter les œuvres que nous avons écoutées lors de cette émission, puisqu'elles sont toutes intégralement jouées par Arthur Rubinstein. Nous avons écouté l'intermezzo de Brahms opus 17 numéro 2, puis la danse du feu de Defalia, ensuite, le troisième mouvement de la Passionata de Beethoven. Magnifique interprétation. Rubinstein n'a pas eu une réputation de grand interprète de Beethoven, alors qu'il aimait beaucoup Beethoven et qu'il a passionnément joué Beethoven et fort bien. Puis la ballade numéro 1 de Chopin, ensuite la sixième polonaise dite héroïque de Chopin et enfin une rhapsodie de Liszt. Nous vous souhaitons un bon mois à venir et nous vous donnons, Paul et moi, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission musicale. À bientôt.